Bonjour, ravi de vous retrouver dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne, les choses de la vie, en direct ou en podcast sur l'appli France Inter. La guerre entre frères et sœurs est-elle inévitable? C'est la question posée ce matin. Comment éviter que la jalousie ne s'installe durablement chez nos enfants et ne se maintienne une fois devenus adultes? Nous essaierons de vous fournir quelques clés pour que la saine émulation ne se transforme pas en implacable rivalité. Comment ne pas favoriser un enfant? Comment éviter d'avoir un chouchou? Comment faire pour que nos enfants trouvent leur place sans que leur relation ne se transforme en guerre façon Abel et Caïn ou Pierre et Jean dans le roman de Maupassant. Nos invités nous diront quelles sont les erreurs à éviter. Et vous, dites-nous comment vous vous y prenez pour atténuer la jalousie inhérente à toute relation fraternelle. La jalousie que vous avez peut-être connue enfant a-t-elle perduré à l'âge adulte? Nous attendons vos questions par courriel grandbienvousfasse@radiofrance.com, sur notre page Facebook que vous êtes de plus en plus nombreux à fréquenter, merci, et bien sûr au 01 45 24 7000, où Chloé et Colline attendent vos coups de fil au standard de France Inter. Et puis tout à l'heure, en fin d'émission, vous retrouverez la Scheherazade de la vie numérique qui nous raconte une nouvelle fois une histoire issue du web. Et ça s'appelle « Il était une fois dans le web ».
France Inter, grand bien vous fasse, Ali Rébéi.
Tiens, mon grand frère bien-aimé a quitté son royaume pour se mêler au coma des mortels.
Nous n'avons pas eu le plaisir de te voir à la présentation de Simba.
C'était aujourd'hui. Ça m'est sorti de l'esprit.
Oui, grâce à ton esprit fourbe. Et en tant que frère du roi, c'est toi qui devais être le premier.
Je l'étais, jusqu'à ce que cette boule de poil vienne au monde.
Cette boule de poil est mon fils. Et ton futur roi.
Oh, il est temps que j'apprenne à faire la révérence.
Un extrait du Roi Lion avec une rivalité entre deux frères, Scar et Mufasa. Avec nous ce matin pour évoquer la jalousie entre frères et sœurs, Roxane Fontaine, bonjour.
Bonjour.
Journaliste pour le magazine Psycho-enfant et psychologue de formation, vous venez de publier chez First Edition « Fini la jalousie entre frères et sœurs ». Bonjour Didier Pleu.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Tout va bien. Tout
Vous
va
êtes
bien.
Psychologue clinicien, co-auteur de Frères Sœurs, les erreurs à éviter, publié chez Erol, dernier ouvrage paru, développer le self-control de son enfant. Alors, la grande particularité des frères et sœurs, des relations entre frères et sœurs, c'est qu'ils se connaissent depuis toujours et qu'ils partagent une chose commune, l'amour de leurs parents. L'amour des parents, c'est la source des rivalités dans la fratrie, Roxane Fontaine ?
C'est pas tant l'amour des parents qui est la source des rivalités que le besoin pour chaque enfant de trouver une place et de trouver son rôle dans la fratrie. Je crois que ce qui est extrêmement important, c'est que chaque enfant pour se sente reconnu dans sa singularité. Et c'est ça qui se joue dans les relations dans la fratrie.
Didier Pleu, consciemment ou inconsciemment, ce sont les parents qui donnent le tempo de la jalousie frère-sœur.
Oui, plutôt inconsciemment. Je pense que toujours le désir d'un parent, c'est de la jouer surtout un peu égalitaire avec les enfants, que je vous aime tous et vous êtes tous parfaits, etc. Mais c'est vrai que sans s'en rendre compte, quelquefois, et on en reparlera, il y a des affinités entre un papa extraverti et son enfant extraverti, ou entre, je fais des clichés, là, mais une maman plus discrète et un enfant plus réservé, bien sûr.
Roxane Fontaine, pour vous, le grand défi des parents, c'est d'être à la fois les parents d'un groupe, mais aussi d'individus.
Oui, c'est les parents, d'être le parent de chaque enfant. Je pense que le grand défi, c'est celui-là. C'est d'arriver à rentrer vraiment en relation avec chacun et d'accepter son enfant tel qu'il est. C'est plus facile à dire qu'à faire, parce qu'effectivement, ce que disait Didier, il y a des enfants qui nous ressemblent plus, il y a des enfants avec lesquels on s'entend plus, il y a des enfants qu'on a eu plus envie d'avoir, parce qu'il y a des papas qui rêvaient d'avoir un petit garçon. Et du coup, ces enfants-là, parfois, ça crée des déséquilibres.
Didier Pleu.
Oui, c'est le grand enjeu. C'est pour ça que je dis toujours que le problème de la fratrie, c'est vraiment le problème majeur pour les parents au niveau éducatif. Ou alors vous êtes dans un monde bisounours, irréel, et vous pensez que tout ça va se réguler, que les enfants vont se construire comme ça, sans anicroche. Ou alors vous vous dites, attention, c'est la répétition un peu de la vie. C'est-à-dire, nos enfants sont différents, va falloir qu'ils apprennent justement à se respecter, à ressentir un peu ce que l'autre ressent. Vous savez qu'on est dans un contexte où on nous dit que l'empathie est naturelle chez l'enfant. Ça me fait un peu rigoler, ça. Bon, peut-être que l'empathie naturelle chez les enfants anxieux, ceux qui ont toujours peur de gêner, mais je pense que l'empathie s'apprend. Et souvent, c'est dans la fratrie. que le parent va signifier ça. C'est-à-dire, attention, toi le dominant, fais attention à ton frère qui est peut-être un petit peu plus réservé. Attention, toi qui es grand parleur, fais attention à ne pas couper la parole, etc. C'est cet apprentissage-là qui souvent n'est pas fait parce que beaucoup de parents pensent que ça va se réguler tout seul. Et ça, c'est un grand fantasme.
Roxane Fontaine.
Oui, je suis d'accord avec ce que dit Didier. Après, ça se régule pas seul et c'est vrai que c'est important pour les parents de pointer les fragilités, enfin de connaître en tous les cas ou d'identifier les fragilités de chaque enfant pour pouvoir justement aider l'enfant à s'épanouir malgré ses fragilités. Alors pas forcément, moi je dirais pas forcément en pointant du doigt le défaut chez l'autre enfant, mais en essayant de l'aider à être moins timide ou à trouver, mais laisser en tous les cas les enfants se friter entre eux ou se disputer. Il y a des parents qui disent ils vont arriver. Et non, ça fonctionne pas comme ça. Il faut leur apprendre à se parler aussi et à exprimer, c'est ce que disait Didier, leur ressenti. Qu'est-ce que ça t'a fait quand il t'a dit ça? Qu'est-ce que ça t'a fait? Et quand chaque enfant commence à exprimer son ressenti, il y a une communication qui commence à se mettre en place.
Alors les parents rêvent tous d'une entente parfaite entre frères et sœurs. C'est un vœu pieux ou bien la rivalité, la jalousie est inscrite de facto dans l'ADN de la fratrie, Didier Pleu?
Non, je pense pas que ce soit inscrit dans l'ADN, la jalousie, la rivalité, mais c'est souvent parce qu'il y a une carence éducative que ça s'inscrit comme ça. Si effectivement les parents travaillent beaucoup sur l'acceptation, c'est-à-dire vois comment est ta petite sœur, vois comment est ton grand frère, son tempérament, ses centres d'intérêt, toutes ces choses-là. Si c'est fait très tôt, si par exemple on dit à un de ses enfants qui est peut-être beaucoup plus manuel, etc., qu'il a des talents, il est très adroit, mais que sa grande sœur a l'air beaucoup plus cérébrale, elle prend beaucoup de plaisir à la lecture, etc., l'enfant va commencer à être dans l'acceptation. Je ne suis pas forcément un cérébral, je suis plutôt... Donc il n'y aura pas cette rivalité de dire « je devrais être aussi bon que l'aîné ». C'est l'enfant qui fait ses petites conclusions tout seul. Mais par contre, si le parent est là pour dire « j'ai bien repéré que tu ne seras jamais un bac plus 47 », ça ne veut pas dire pointer ses défauts, ça veut dire « regarde comment tu es ». Et ça lui évite de se comparer à l'autre, parce que quand c'est pas dit tout ça, on a beau dire « mais c'est pas grave, je vous aime autant », le petit voit bien que l'autre lit beaucoup plus vite, la petite fille voit bien qu'elle est moins adroite en sport.
Roxane Fontaine.
Oui, alors moi je voulais dire, il y a des choses que les parents impulsent sans s'en apercevoir. Ça rejoint ce que dit Didier, c'est-à-dire que les parents, finalement, ils vont peut-être plus expliquer à un aîné. Ils vont passer plus de temps à lui expliquer. Ils vont donner plus d'attention à un petit dernier. Et ça va créer des déséquilibres.
Bonjour Sylvie, vous appelez de Montpellier, bienvenue.
Oui, bonjour.
Alors vous avez trois enfants, hein?
Oui, j'ai trois enfants. J'ai deux grands de plus de 20 ans et une petite de 8. Et ce que je voulais dire, c'était ce qui était dit en début d'émission par votre interlocuteur, qui était de dire que, en fait, les disputes entre les enfants, souvent, ça vient du fait qu'ils sont en concurrence au niveau de la satisfaction de leurs besoins, que ce soit des besoins affectifs, éducatifs, pédagogiques, etc. Et du coup, j'ai des amis qui ont des enfants en bas âge de l'âge de ma dernière, avec des frères et sœurs plus grands ou plus petits, et on discute vachement sur le fait justement de cette réalisation des besoins, et de la satisfaction de leurs besoins, et du fait d'individualiser un peu les prises en charge et les temps passés avec chaque enfant de la fratrie, et pas faire un groupe qui s'appelle les enfants et qui ont des besoins, qui auraient des besoins qui sont constamment les mêmes ou constamment identiques. Et du coup, pouvoir individualiser la prise en charge de façon à mieux répondre à chaque enfant et à chaque individu, du coup, parce que les enfants ne sont pas les mêmes, même s'ils sont frères et sœurs.
Sylvie, ça se passe comment, concrètement?
Eh bien, moi, j'ai
un exemple.
J'ai mes deux grands, par exemple les câlins ou l'histoire du soir, comment est-ce qu'on fait, tu as passé plus de temps avec lui qu'avec moi, ou bien ce genre de choses. Et donc essayer de mettre en place des petits moyens pour que chacun se sente et respecté et pas lésé vis-à-vis de l'autre, et être capable d'expliquer que oui, si on prend plus de temps à ce moment-là avec l'autre, c'est parce qu'il en a plus besoin, mais qu'on est capable de faire pareil avec celui qui est en pleine récrimination par rapport au fait qu'on a passé plus de temps ou que le petit joueur qu'on leur a donné à ce moment-là, l'autre il était plus beau, enfin ce genre de choses.
Oui, Didier Pleu.
Oui, attention au principe d'égalité, parce que ça, c'est sympathique. Quand on est parent, on n'a pas envie que l'enfant soit en déséquilibre par rapport à son frère, sa sœur, etc. Mais c'est pas possible. Je voyais ça avec ma petite fille récemment, elle a 5 ans, il y a une petite sœur qui est née au mois de juillet. Et bien sûr, quand elle voit les parents plus attentionnés avec le bébé de 6 mois, elle commence à faire la bouille, elle vient vers moi, etc. Et c'est là que je compense pas aussitôt, je lui dis pas, tiens, parce qu'on s'occupe de la petite, moi je vais faire un château de cube avec toi. Je lui explique ça. C'est normal que tes parents soient plus proches d'un tout petit, parce qu'en quantité de présence, il en a plus besoin. C'est ça aussi le principe d'acceptation.
Sylvie, qu'est-ce que vous répondez à Didier Pleu?
Oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec ça sur le principe d'égalité qui est une chimère et qui fait que des parents, des fois, se retrouvent dans des situations compliquées. Moi, j'ai beaucoup d'amis, là, qui ont, je vous dis, qui sont beaucoup plus jeunes que moi, du coup, parce que moi, j'ai 51 ans, et qui ont des enfants en bas âge. Et c'est vrai que le principe d'égalité qui paraît être toujours quelque chose de souhaitable pour les parents, finalement, on se rend compte que c'est au détriment des enfants que ça se fait parce que, voilà, les enfants de 2 ans, ils n'ont pas les mêmes besoins que les enfants de 5, que les enfants de 8, voilà, que ceux de 10, etc.
Donc vous privilégiez plutôt le principe d'équité, Sylvie?
D'équité, oui, et surtout d'individualisation de la prise en charge au sens large du terme, pour répondre à leurs besoins au moment où ils les expriment et pas forcément avoir à gérer un groupe qui s'appelle les enfants ou les petits.
Roxane Fontaine.
Oui, je reprendrai le propos de Donald Winnicott qui disait que la bonne mère, entre guillemets, c'était celle qui était à la juste distance. Donc je pense que ça c'est important, c'est-à-dire que le temps qu'on passe avec chaque enfant, il est lié aux besoins de l'enfant et être à la bonne distance par rapport à l'enfant, c'est ce que disait Didier par rapport au bébé.
Merci beaucoup Sylvie de nous avoir appelé depuis Montpellier, je vous souhaite une belle journée et vous dites-nous comment vous vous y prenez pour atténuer la jalousie inhérente à toute relation fraternelle. La jalousie que vous avez connue enfant a-t-elle perduré une fois devenue adulte? Nous attendons vos témoignages par courriel grandbienvousfasse@radiofrance.com sur notre page Facebook et bien sûr au 01 45 24 7000. À suivre, comment s'y prendre pour ne pas avoir de chouchou et comment éviter que l'aîné ne soit jaloux de l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur. Alexa Rivière et Claire Destacan ont préparé cette émission avec l'aide de Clara Marliot et c'est Jérôme Boulet qui réalise.
À lire EBI sur France Inter. Let me in. Let's get it set up. That's what I like. That's what I need. Just what I want. So give it to me. Give it to me. Give it to me. Catch a break, you know I love the chase, so hit the throttle. That's what I like. That's what I need. Just what I want. So give it to me. Give it to me. Give it to me.
C'était Pie John John à 10h20 sur France Inter.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
Et ce matin, on se demande si la guerre entre frères et sœurs est inévitable, s'il est possible d'atténuer la rivalité, la jalousie dans une fratrie, avec la journaliste Roxane Fontaine, auteure de Fini la jalousie entre frères et sœurs, et avec le psychologue clinicien Didier Pleu, auteur de Frères, sœurs, les erreurs à éviter. Roxane Fontaine, la famille, c'est le lieu où les parents donnent de l'amour, transmettent des valeurs, posent des cadres et attribuent des fonctions qui vont influencer les relations fraternelles. Par exemple, si un parent affirme que son aîné est généreux, que la cadette est plutôt paresseuse et que le benjamin est plutôt un charmeur, cela peut avoir des conséquences entre eux.
Ben, ça fige un peu l'identité de l'enfant. C'est-à-dire qu'à force d'entendre son papa dire « Toi, t'es intelligent, toi, tu vas réussir tes études », alors il va y avoir un enfant qui va peut-être investir plus les études. Et puis si le petit dernier, on lui dit « Oh, ben, de toute façon, toi, t'arriveras jamais à rien », ben, il va enregistrer « J'arriverai jamais à rien ». Et il va vivre avec cette phrase imprimée dans la tête « J'arriverai jamais à rien ».
Roxane a parfaitement raison, c'est-à-dire tout ce qui est étiquetage, c'est mauvais. Mais enfin, je crois que c'était plutôt le fait des anciennes générations. Ça, ce côté, ton frère, ça sera un gars à Sorbonne et toi, tu seras, je sais pas quoi, ouvrier métallo.
Ça existe encore un peu, ça, non ?
Oh, oui. Mais je crois qu'il faut, ils font très attention. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que sans vouloir étiqueter, les parents se rendent pas compte quelquefois que de dire, dis donc, t'es très bon en sport, etc., l'autre qui est moins bon, on va le prendre pour, si on dit tout le temps que mon frère aîné est excellent, c'est que je suis pas bon. C'est pour ça qu'il faut tout le temps faire une médiation en disant, attendez, vous avez des tempéraments différents, des comportements différents, des attitudes différentes. On parle d'attitude, de comportement et pas de personnalité. C'est tout le temps ça qu'il faut marteler. C'est-à-dire, tu peux être un peu intolérant en frustration avec l'école, mais on va pas dire paresseux. T'as du mal avec la méthode, la rigueur et l'effort. Mais on va pas dire aussitôt, dis donc Virginie, ta sœur, qu'est-ce qu'elle est balèze.
Bonjour Aurore, vous appelez de l'Ain, où exactement ?
Oui, bonjour. Alors, je suis, on va dire, près de Champagne, en Val-Romey.
D'accord. Alors, vous avez trois enfants en bas âge, Aurore.
Oui, j'ai trois filles, en fait, qui ont, 9, 7 et 3 ans.
Comment ça se passe ?
Eh ben, ça se passe que c'est assez, sport, c'est assez compliqué, même si c'est formidable. De voir une fratrie, enfin moi je suis très heureuse qu'elle soit là. Mais après c'est avec les écarts d'âge et puis les différences de tempérament font que c'est parfois assez difficile d'être tous ensemble. Et je me suis rendu compte que j'avais un peu cette idée qu'on devait faire les choses ensemble. Enfin qu'il y avait cette idée de la fratrie, de la famille. Et depuis quelques temps je me suis un peu je me suis un peu lâchée sur ce principe-là et je sépare pendant les vacances notamment. Et je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus agréable. Donc je m'autorise des journées avec une seule de mes filles, en faisant garder les autres, ou même des vacances où je suis partie une semaine ou un week-end avec les deux grandes. Et donc du coup, on a pu profiter complètement différemment de ces temps-là. Et c'est finalement, je retrouve un rapport où je les redécouvre.
Didier Pleu. Didier Pleu, vous répondre.
Moi, je trouve ça, c'est bien, c'est une bonne technique, pourquoi pas, de se dire, je vais passer des moments avec certains enfants, au lieu de vouloir absolument qu'ils fassent tout ensemble, mais là, j'insisterai toujours sur le côté conflictuel, j'ai pas dit agressif, que peut avoir un parent, c'est-à-dire, on peut aussi demander, je répète, un enfant extraverti de faire des activités avec un enfant plus réservé, pour lui apprendre à respecter l'autre. On peut faire une activité de loisir avec un enfant qui est beaucoup plus, je ne sais quoi, habile, avec un enfant qui est un peu plus, encore une fois, réservé, pour lui dire « Mets-toi dans les mocassins de ton frère ou de ta sœur ». C'est l'empathie, parce que sinon, on va dire, on fait de l'individuel, quoi. Je pense que c'est le lieu où on apprend la présence de l'autre et la différence de l'autre, la fratrie. Et c'est ces fratries-là qui s'entendent bien plus tard.
Roxane Fontaine ?
Moi, je suis d'accord avec ce que dit Didier, mais je trouve que c'est drôlement important de passer du temps avec chaque enfant et à découvrir le tempérament et la personnalité de chacun, parce que parfois il y a des parents qui s'attachent à un enfant en termes de relation, qui développent une relation plus avec un enfant et un peu moins avec un autre, et le fait de prendre du temps avec chacun, ça permet au long de la vie de découvrir chaque enfant dans ce qu'il est, et je crois que c'est important pour justement faire tomber les tensions.
Merci beaucoup Aurore de nous avoir appelé. Bienvenue Olivier, vous appelez du 3e arrondissement de Paris.
Yes.
Yes. Alors dites-nous tout, Olivier.
Alors en fait je suis totalement d'accord avec ce que dit monsieur, désolé j'ai plus le nom.
Didier Pleu.
Didier Pleu. Effectivement en fait nous on a eu une période avec mes frères où on a eu un peu une petite baisse de régime, mais en fait notre
C'est quoi une baisse de régime ? C'est quoi une baisse de régime ?
Disons qu'on a eu certains différends dans la famille et entre frères, et en fait il a eu ce discours envers chacun de nous comme quoi il faut veiller envers son frère, et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là on a eu on a commencé à construire ensemble en fait notre fraternité. Aujourd'hui, on a une fraternité qui est extrêmement forte, plus forte qu'avec nos parents, certainement.
Est-ce que vos parents avaient des chouchous au sein de la fratrie ?
Ah bah oui. C'est... Alors, je dirais pas des chouchous. Je dirais plus des liens plus affectifs envers. Oui. On peut dire des chouchous, oui. Mais c'est. Je pense pas qu'il y avait une jalousie intrinsèquement.
Vous étiez le chouchou ou pas vous ?
Ah non, je n'étais pas le chouchou, je ne pense pas. Non.
Alors comment vous avez vécu le fait que l'un de vos frères ou sœurs a été le chouchou ?
Je l'ai accepté en fait comme une différence, comme quoi on a des comportements différents, des personnalités différentes, et que ma mère s'entendait plus avec un de mes deux frères. Je l'acceptais, je l'ai pas mal vécu en vérité.
Didier Pleu.
Ah ben moi j'aime bien ce que dit Olivier parce qu'il a parlé deux fois d'acceptation, donc ça me va bien. C'est-à-dire oui, moi je me souviens aussi que mon frère aîné, c'était à l'époque né dans les années 40, c'était le dieu quoi, celui qui était attendu. Moi j'ai été le dernier de la fratrie, donc forcément le puiné, c'était un peu l'accident de contraception. Donc bon, l'acceptation c'est ça, c'est de se dire c'est normal qu'à cette époque-là et même maintenant les parents puissent avoir plus d'affinité avec un aîné ou je ne sais quoi. C'est la vie est pas faite que de justice.
Bonjour Julia Fosse, que je fais entrer dans la danse. De grand bien vous
fasse. Bonjour Aïe Rébéi, bonjour tout le monde. Non, on parlait de chouchou et je me demandais si c'était si confortable que ça, la position de chouchou, c'est-à-dire que quand on l'est pas, on a un peu plus la peine, hein.
C'est pas très confortable parce qu'en général, le chouchou doit tout le temps répondre aux demandes inconscientes des parents. Donc ça veut dire, faut que je plaise, faut que je continue, etc. Donc il est souvent moins individué que les autres, celui-là.
Merci beaucoup Olivier de nous avoir appelé de Paris. Alors comment faire si l'un des parents a un chouchou, justement, un préféré ? Et c'est quoi un chouchou du point de vue du psychologue clinicien que vous êtes, Didier Pleu ?
Le chouchou, c'est pas terrible, mais c'est incontournable. On parle plus d'affinité, quoi. Le chouchou, je répète, c'est un tempérament qui peut séduire plus qu'un autre. C'est évident qu'un papa, je sais pas trop quoi, qui est très chef de meute séducteur, s'il a une fille qui est très jolie, séductrice, eh ben, il va, sans s'en rendre compte, tout le temps la mettre en avant, etc. Et ça peut donner un statut privilégié. Mais en général, ça veut dire que ça signe un dysfonctionnement. S'il y a chouchou, ça veut dire que le parent, inconsciemment, est en train de projeter sur sa progéniture des histoires qui lui appartiennent, quoi. Parce que quelqu'un qui est clair va justement se dire, oh, attention, ma fille séductrice, j'ai envie de la montrer, de la mettre en avant, mais il faut que je m'occupe aussi du petit Michel qui a un petit peu de mal à parler en groupe.
Mais Roxane Fontaine, il ne faut pas culpabiliser les parents qui ont des affinités avec certains de leurs enfants.
Non, c'est ce qu'on est en train de dire. Il ne faut pas culpabiliser les affinités. Il faut les identifier. Je crois que c'est important de les identifier pour pouvoir équilibrer éventuellement ou en tous les cas éviter qu'il y ait un enfant qui soit trop laissé à l'abandon.
Ça peut susciter de terribles jalousie, oui. Didier Pleu.
Oui, parce qu'à ce moment-là, si on n'identifie pas les choses, moi je me souviens que mon fils aîné, j'ai un enfant tous les 10 ans, moi je suis un peu toc, maniaque.
Un peu lent.
Oui, ça va être un peu lent. Bon, il a arrêté la classe en troisième, c'est évident que, ses sœurs qui étaient plus... un télo, je veux dire, entre guillemets, sans m'en rendre compte, je pouvais tomber dans ce panneau de dire, c'est bien à l'école et tout. Non, il a fallu que, effectivement, comme dit Roxane, identifier. Et ça, c'est ma femme qui m'a aidé aussi. Et des amis qui m'ont dit, attention, il est manuel, il est technique, ton fils aîné, fais attention à ne pas établir un gouffre avec les autres.
Et puis, dans les familles recomposées, les choses peuvent se compliquer et créer des tensions quand on privilégie ses enfants au détriment de ses beaux-enfants, Roxane Fontaine.
Oui, alors là, on rentre dans un problème qui est beaucoup plus vaste, parce que quand on est dans la famille recomposée, déjà, il faut qu'il y ait acceptation du conjoint, ça c'est déjà un gros boulot, il faut qu'il y ait des liens qui soient créés entre le conjoint et les enfants, c'est encore un autre boulot, parce que si ces liens-là sont pas créés et qui sont pas sur des bases, je dirais, saines, alors que c'est compliqué à mettre en place après une séparation, je vois pas comment on peut arriver à pacifier les relations facilement dans la fratrie. Donc pour moi, ça passe vraiment par le dialogue, un maximum de dialogue et de bienveillance.
Didier Pleu, j'aimerais qu'on précise une chose. Agir différemment avec chacun de ses enfants ne veut pas dire qu'on en aime plus que d'autres.
Non du tout, ça veut dire qu'on peut partager des choses.
Julia Foyce.
Non mais c'est ça qu'on peut expliquer à l'enfant. D'ailleurs c'est pas parce que j'ai passé une demi-heure avec ta sœur à parler de je sais pas quoi, de Stendhal parce qu'elle est littéraire, que... je t'aime moins. Non, j'ai forcément des moments de partage peut-être plus proches avec elle. Mais par contre, et c'est là que Roxane a raison, il va peut-être falloir compenser avec ma dernière qui est plus active, plus créative, sur un dessin, sur un conte de fées, etc. C'est là qu'il faut réguler.
Je veux porter le bébé.
Je suis désolée, Bart, tu es trop petit.
Tiens, Bart, tu peux porter ma bière.
Je te déteste, toi.
Oh, merde.
Ben quoi?
J'étais bien quand il y avait avec moi, maman et Homer. T'as tout gâché. Alors je m'en vais. Adieu.
Bert.
Qu'est-ce que t'as dit?
Bert.
Ah, nom d'un petit bonhomme. Tu sais parler? M'en pas. Elle parle. Redis-le, Lisa.
Bert. Bert, 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 Bert.
Je suis son premier mot.
Oh, mais moi, ça ne m'étonne pas. Lisa est folle de toi. Elle pense que tu peux lui décrocher la lune.
Wow.
Un extrait de la série animée Les Simpsons. Alors, quand un nouvel enfant paraît, une rivalité naît instantanément chez l'aîné, ou est-ce que c'est un mythe, Didier Pleu?
Non, non, c'est pas un mythe. C'est vrai qu'on dit toujours qu'il y a une préparation. C'est-à-dire, quand il y a un enfant, on attend un nouveau bébé, oui, on en parle à l'enfant. Mais enfin, ça veut pas dire qu'il faut dialoguer, surtout quand il y a un écart de 2-3 ans, pendant des heures et des heures, pour expliquer, tu comprends, tu seras pas toute seule, gna 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 gna.
Mais qu'est-ce qu'il faut dire à ce petit garçon qui se demande si la nouvelle petite sœur va rester à la maison longtemps?
On lui dit la vérité. On lui dit la vérité, bien sûr. On va pas vendre ta petite sœur quand elle arrive, mais surtout, on lui parle déjà de cette histoire de quantité. C'est comme un gâteau et il y aura moins de gâteaux. Ça veut dire qu'on t'aime moins, mais il faut surtout préparer l'enfant à cette fameuse frustration. Sinon, l'enfant comprend pas. Lui, ce qu'il dit, c'est s'il y a moins de maman, c'est qu'on m'aime moins. Si on m'alimente moins ou pas quoi, c'est qu'on m'aime moins. Donc, on est toujours en train de lui dire non, non, non. On a plus de temps à passer avec le nouveau-né, mais ça n'a rien à voir avec l'amour. Et ça, faut le répéter à l'inlassablement.
Et c'est aussi un apprentissage de l'altérité.
Ah bah complètement, c'est l'apprentissage que l'autre est différent, l'autre peut demander plus de soins, plus de choses, et c'est aussi la vie. C'est-à-dire que toi, quand tu auras ton statut de plus âgé, tu verras que tu pourras regarder peut-être un petit film à la télé plus longtemps, alors que ta petite sœur, on lui demandera de se coucher. C'est ça.
Voilà, c'est mettre en place des activités de grand, avec le grand justement, pointer le fait que avec toi on fait des trucs de grand, on a des discussions de grand.
Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'arrivée de ce nouvel enfant se passe au mieux? Il faut dire la vérité simplement, c'est ça Didier Pleu?
Oui, dire la réalité des choses. Il y aura un nouveau bébé, et puis t'as bien vu comment ça se passe, et puis tu as bien vu déjà, alors s'il a 3-4 ans, t'as vu comment ça se passe à la crèche, t'as vu que plus il y a d'enfants, ben moins l'assistante maternelle s'occupe de toi, etc. C'est déjà lui montrer concrètement, mais ça n'a rien à voir avec ta qualité d'être humain.
Mais il faut laisser s'exprimer le désarroi de l'aîné
Ah oui, bah on lui demande de s'exprimer, pas trop. Bah oui, qu'est-ce que t'en penses, etc. Oui, oui, on peut y aller à fond là-dedans, pourquoi pas. Mais exprimer, c'est toujours bon, exprimer son senti. Ça veut dire, oui, tu seras jaloux, oui, c'est normal, tout ça. Voilà.
Pour que ça se passe bien, il faut responsabiliser l'aîné, le valoriser face à cette nouvelle naissance, éviter les jalousies.
Oui, il faut valoriser l'aîné, et après, oui, on entend l'aîné, mais trop, c'est trop, parce qu'il y a un moment où quand on l'entend trop, il finit par dire, ah ouais, mais... Il y a vraiment un problème finalement. J'ai peut-être raison d'être jaloux. Oui. Donc il faut poser le curseur quelque part parce que sinon il va devenir jaloux parce que les parents sont inquiets.
Bonjour Gérald, vous appelez de Paris dans le 14e arrondissement. Bienvenue dans l'émission. Bonjour Gérald. Gérald, êtes-vous là avec nous?
Il est reparti.
Bonjour Gérald, vous n'êtes pas là, on vous prendra un peu plus tard. Que faire quand les enfants n'arrêtent pas de se disputer, Didier Pleu?
Alors surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est ce que j'entends trop souvent, ils apprennent la vie, ils vont s'autoréguler. Ça, j'ai entendu ça aussi dans des crèches. Hein. Ça m'est arrivé de voir un enfant un petit peu imposant se glisser sur les plumelles. On me dit non, ils vont se réguler. Vous voyez le mal partout, pleut, vous voyez les enfants rois partout. Non, 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 non. Si un enfant dominant qui est en train de s'asseoir sur un plus mince, on lui dit de pas le faire. Et c'est pareil dans la fratrie. Je crois que non, c'est le rôle du parent d'éduquer et de dire, je suis désolé, toi t'es plus grand, et si tu joues qu'au basket avec le petit, effectivement, il va passer une sale journée. Toi t'es comme ci, t'es comme ça. Donc il y a des différences, mais en tant que parent, je dis de respecter l'autre tout le temps, à faire attention à l'autre.
Et l'autorégulation, ça peut fonctionner?
Ben, ça fonctionne si vous avez 3 enfants, tempérament anxieux, je sais pas quoi, mais si vous avez un chef de meute, la régulation, c'est pour
ça
lui.
Ça fonctionne moyen. Par exemple, si vous avez 3 garçons qui sont un peu physiques, ça fonctionne moyen, la régulation. Hein. Quand ils sont en train de se frapper dessus, ça fonctionne moyen. Et je crois qu'il y a des gradations, c'est-à-dire il y a les petites disputes et puis il y a les bastons entre frères. Et je pense que là aussi, c'est important de poser des cadres. Il dira pas non, Didier. Il faut poser des limites claires et il faut intervenir pour dire les choses clairement. Parfois, il faut vraiment intervenir.
J'ai un œil au beurre noir, abruti. Tu vas me le payer.
Personne ne paiera pour quoi que ce soit. Et maintenant, faut que ça cesse. J'en ai marre de vous voir vous bagarrer. Et toi, je te conseille d'être prudent parce que ton anniversaire approche.
Juste de l'argent, pas de cadeau.
Tu n'auras rien du tout si tu as l'intention de te venger. Et je ne veux pas savoir qui a commencé. Tu arrêtes et c'est tout.
Mais c'est lui.
J'ai dit tu arrêtes.
Ah, alors tu le laisses avoir le dessus, c'est ça?
Oui, exactement. Allez, disparaissez. Je ne veux plus vous voir.
Même si ça ne sert à rien, vous êtes puni. Encore.
T'es content, je suis puni pour mon anniversaire.
Oh, pauvre chou, moi aussi j'étais puni pour mon anniversaire.
Oui, mais moi je me suis défendu, c'est tout. Tu sais ce que ça veut dire, se faire justice soi-même?
Et toi, tu sais ce que ça veut dire, la ferme?
Ça suffit maintenant.
Un extrait de la série Malcolm. Alors, que faire en cas de bagarre incessante? Qu'est-ce que vous préconisez, Roxane Fontaine?
Alors, comme je l'ai dit, une intervention. Et puis,
il faut prévenir peut-être aussi?
C'est-à-dire?
Bah, prévenir, je ne sais pas, mettre des cadres très stricts avant.
On peut mettre des cadres, mais
disons. Et les rappeler constamment.
Oui, alors oui, oui. L'éducation
oui,
est une perpétuelle. Non, mais l'éducation est une perpétuelle répétition. C'est important de le dire. Mais quand ils sont, oui, moi je dis faut intervenir, puis peut-être les isoler, qui se calment un peu et reprendre à froid. C'est-à-dire rediscuter avec eux à froid et dire qu'est-ce qui s'est passé, donner la parole à chacun à tour de rôle de manière à ce que chacun puisse apprendre à parler et à respecter la parole de l'autre et essayer de faire tomber le conflit en aidant les enfants à exprimer ce qui pose problème. Et parfois, il y a des raisons de rivalité qui apparaissent. Et du coup, là, on peut les régler.
Didier Pleu. Tout à fait, Roxane a raison. C'est, dès qu'il y a un conflit, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est mal digéré. Donc, il faut qu'ils disent les choses. Mais attention, ne tombons pas dans le panneau quand il y a une bagarre entre frères. Par exemple, je vois souvent des parents qui vont s'attaquer justement aux plus physiques, aux plus costauds. Il y a souvent des petits rois qui sont ce qu'on appelle des ils lancent les grenades, quoi. Donc, il faut faire très attention à repérer parce qu'il y a même des enfants moins âgés qui vont déstabiliser le plus grand. Et donc c'est difficile, mais il faut bien regarder ses enfants. Et moi, ce qui me fait toujours peur, c'est attention, si on a un enfant qui est un peu intolérant aux frustrations, un peu roi, celui-là peut faire du mal dans la fratrie. Alors, je ne veux pas être toujours dans la négation et dans le pessimisme, mais je vois aussi apparaître en consultation, attention, il y a des enfants qui n'ont pas trop de limites dans certaines familles et qui prennent les autres enfants pour des choses. Et je le dirais même au niveau de certains abus, au niveau de certains enfants prépubertaires. Donc, il faut faire très attention. Ça ne veut pas dire qu'il y a de l'inceste à foison, mais attention, il y a des enfants qui chosifient la petite sœur ou le petit frère parce que lui, il a regardé des films porno sur son iPod et il continue à le faire à la maison.
Allez, dans quelques instants, nous verrons que la jalousie entre frères et sœurs fait partie du développement d'un enfant. Et vous, dites-nous comment vous vous y prenez pour atténuer la jalousie inhérente à toute relation fraternelle. 01 45 24 7000, grand bien vous fasse, @radiofrance.com.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
Diana Ross et les Supremes. C'est Julia Foyce qui chantonne en studio.
J'aime bien comment vous dites Diana.
Non,
je suis très, très bien.
Mais comment vous le dites, vous, alors?
Mais non, je trouve ça très bien.
Vous
me chambrez.
Vous me chambrez. S'il y a de l'ironie dans votre
regard.
Moi,
je vous chambrez. Je ferai jamais une chose pareille.
Ali Rebbi, grand bien vous fasse. Sur France Inter.
10h41 et ce matin on se demande si la guerre entre frères et sœurs est inévitable, s'il est possible d'atténuer la jalousie dans une fratrie avec le psychologue clinicien Didier Pleu et la journaliste Roxane Fontaine.
Si j'étais jaloux de mes frères, je pense, oui, un peu. Ouais. Les frères, les autres accaparent beaucoup de place. Je suis l'aîné de 7 enfants, donc nous on en a moins forcément.
Quand j'étais petit plutôt, les jouets par exemple, enfin les choses comme ça, et puis quand on est frère et sœur, il y a toujours des conflits.
Une fois je me suis battu avec mon frère quand j'étais jeune, mais alors pourquoi ?
Maintenant je suis plus trop jaloux de ma sœur, mais bon, il y a des fois quand même, quand mes parents sont plus sympas avec elle, ça m'énerve un petit peu.
C'était plutôt l'inverse, c'était plutôt mes frères qui étaient jaloux de moi. J'avais ma chambre à moi toute seule et eux, ils étaient obligés de se partager des chambres.
Ma grande sœur, elle a 10 ans de plus que moi et du coup, en grandissant, elle avait beaucoup plus de liberté que moi, elle avait beaucoup plus d'amis, etc. Du coup, ça provoque beaucoup de jalousie, bien sûr.
Mais bon, non, je suis pas trop jaloux de ma sœur, ça va, et puis je l'aime beaucoup.
Je suis la plus âgée, donc j'étais là la première. Quelque part, c'est un peu comme celui qui a posé pour la première fois le pied sur la Lune ou Mars ou Jupiter. Ça me donne une espèce d'immunité totale. Ils étaient très jaloux, bien sûr.
Propos recueillis cette semaine dans les rues de Paris. Petit commentaire autour de la table, Didier Pleu.
Oui, mais quand la jalousie, elle provient de différence de statut chez les enfants, c'est normal. Mon frère a plus de liberté ou ma petite sœur a plus de papa-maman pour l'alimentation. Ça, c'est tout à fait normal. Mais c'est quand il y a une différence au niveau de la personnalité. Si on est jaloux de la personnalité de l'autre, là, malheureusement, j'ai envie de dire, c'est le principe de réalité. C'est toujours cette histoire de je compare, il doit pas y avoir d'injustice. Bah, même dans la fratrie, il y a des injustices parce qu'il y a des plus cérébraux, des plus beaux, des plus physiques, des plus je sais pas quoi.
Il faut pas trop le dire.
Non, mais on peut en parler.
Oui, mais on peut reconnaître les talents de chaque enfant. Et voilà. En reconnaissant les talents de chaque enfant, on les aide à aimer leur personnalité.
Alors Carla nous dit par courriel, lorsque ma fille me demande qui est mon enfant préféré, je lui réponds qu'elle est ma fille préférée. Lorsque c'est mon fils, je lui réponds qu'il est mon fils préféré. Il est évident que cette astuce ne fonctionne que lorsque vous n'avez qu'un seul fils et une seule fille. Voilà. Et puis Olivier nous dit par courriel également, nos parents n'ont jamais comparé nos réussites et échecs et ont toujours été égaux dans leur comportement vis-à-vis de chacun. Aucun des trois n'a été avantagé vis-à-vis des deux autres. Et cela n'a jamais créé de jalousie. Moralité, nous sommes trois frères et sœurs. Nous avons aujourd'hui entre 45 et 40 ans. On s'entend à merveille et voilà. C'est apparemment pas si répandu dans toutes les familles.
Ça veut bien dire que s'il y a de l'éducation, c'est-à-dire de la médiation des adultes dans la fratrie, c'est-à-dire qu'ils mettent leur nez dans les histoires des frères et sœurs, il n'y aura pas ces phénomènes névrotiques de jalousie, de comparaison et de frustration.
Mais la dispute et la rivalité, ça peut aider les enfants à se construire. Ça fait partie de leur développement, Roxane Fontaine.
Oui, ça fait partie de leur développement parce qu'on se dispute parce qu'effectivement on n'est pas content, on est jaloux. C'est une manière de dire j'ai quelque chose à dire, Et donc je lui tape dessus parce qu'il est en train de faire quelque chose qui moi me fait du mal, me fait souffrir. Donc c'est le prétexte pour dire aux parents « intervenez et j'ai quelque chose à vous dire ».
La jalousie, elle peut être saine, Didier Pleu. Ça permet de s'affirmer, de tester ses limites. Et ça permet aussi de faire le deuil de la toute-puissance de l'enfant roi. Un thème qui vous est cher.
Oui.
Et j'aimerais citer votre amie Françoise Dolto, qui parlait de jalousie fraternelle structurante.
Oui, on doit être dans les castrations symboligènes de Dolto.
Tiens, qu'il y a toujours des termes. Je suis d'accord avec ce que dit Dolto là sur la jalousie fraternelle structurante.
Oui, ça structure parce qu'effectivement, on apprend la réalité. Non, mais Dolto n'a pas dit que des vilaines choses. Elle a été très réaliste, bien sûr. Non, mais ça, c'est un faux procès. Elle a dit des bonnes choses, mais elle a dit aussi des pas terribles. Non, la jalousie structure dans le sens où, effectivement, ça veut dire que je suis en train de regarder comment est l'autre et je peux envier ce qu'a l'autre et ce que je n'ai pas, son physique, son mental, etc., son tempérament. Donc, ça participe à la construction de soi. C'est-à-dire, je regarde un peu ce qui se passe autour de moi. C'est comme avec les copains. La fratrie, donc est-ce que je peux accepter que j'ai des déficits, que j'ai des talents? Bien sûr, Roxane a tout à fait raison. On ne peut travailler sur l'acceptation des déficits et des différences que si on travaille aussi sur la spécificité, la singularité de l'enfant. Mais ça construit, bien sûr que ça construit, puisque c'est la réalité.
Bonjour Gérald, on vous a retrouvé dans le 14e arrondissement de Paris.
Oui.
Bon, alors dites-nous tout.
Donc je voulais dire que ça dépend pas uniquement des parents, l'entente entre les frères et sœurs. Parce que moi, j'étais l'aîné d'une fratrie de deux enfants. Et j'ai pris mon rôle d'aîné très au sérieux, dans le sens que, étant l'aîné, je me suis dit, tiens, je vais montrer à mon petit frère ceci, cela, quand j'ai appris à écrire, à lire, je lui ai montré, etc. C'est-à-dire que quand lui est arrivé à l'école, il savait déjà lire et écrire. Mais il en a conçu une espèce de jalousie du genre, oui, c'est toujours mon grand frère qui me montre, qui a raison, qui me montre l'exemple, et moi alors, quoi. Mais je pouvais pas du tout imaginer le rôle que je prenais comme ça.
Didier Pleu.
Ben oui, il faut surtout pas que l'aîné devienne le substitut parental, mais par contre, on sait très bien que dans les familles nombreuses, par exemple, les aînés, quand il y a un grand écart d'âge, ont pris un rôle de paternage, de maternage, mais il faut faire attention, ne pas confondre les rôles. Mais c'est important aussi qu'un aîné soit par exemplaire, comme on dit au 19e siècle, mais c'est toi qui peux enseigner, qui peux transmettre aussi, qui participe à la vie de l'enfant.
Merci beaucoup Gérald de nous avoir appelé de Paris. Est-ce que on grandit de la même manière quand on a été enfant unique, que l'on n'a pas connu cette jalousie fraternelle? Hélène nous dit par courriel, avec mon conjoint, nous avons décidé de ne pas faire de petit frère ou de petite sœur à notre fils de 3 ans. Ce manque peut-il avoir des conséquences sur notre fils? Il ne fera jamais partie d'une fratrie.
Oui, ma crainte, c'est qu'un enfant unique, ça ne veut pas dire forcément qu'il sera un petit roi, un être égocentrique, etc. Mais on lui enlève toute une partie qui est effectivement l'apprentissage de l'empathie. C'est-à-dire, les autres sont là, les autres sont différents, et je dois faire un effort pour que me mettre dans les mocassins.
Roxane Fontaine.
C'est la sociabilisation, voilà. Hein, l'apprentissage aussi de la sociabilisation. Donc ça, c'est vrai que c'est plus compliqué quand il y a un enfant unique.
Mais à ce moment-là, on lui met des tas d'activités sportives, voilà, ou autres ailleurs.
Avec d'autres enfants.
Ouais. Bonjour Martine, vous appelez de La Réunion. Bienvenue.
Oui. Bonjour, je suis ravie de vous aborder.
Ben moi aussi, Martine. Alors vous étiez la non préférée.
Mais c'est déjà une bonne chose.
Merci beaucoup, Martine. Vous étiez la non préférée, c'est ça?
Eh bien, écoutez, moi je suis le vilain petit canard. En fin de compte, j'étais la cinquième enfant. Je suis née en 1966. Mm-hmm. Et mes parents ont eu deux garçons et deux filles avant moi. Toutes très jolies, des garçons fantastiques. Une fille, la dernière, en l'occurrence moi, Martine, qui est née en 1966, qui n'a pas du tout été acceptée puisque mon frère aîné, qui avait 18 ans à l'époque, trouvait honteux d'avoir une maman enceinte dans ces années-là. Mon autre frère, lui, était un petit peu dans les nuages, donc ils s'en fichaient complètement. Mon autre sœur, elle n'avait pas du tout de d'avis. Quant à ma dernière sœur, Marie-Christine, elle était jalouse puisqu'elle avait 10 ans et elle pensait être la princesse de la famille et enfin pouvoir bénéficier de tout le bonheur de la petite dernière.
Martine,
je suis arrivée.
Martine, est-ce que cette jalousie, cette rivalité, quand vous étiez enfant, a perduré une fois devenue adulte?
Alors, je vais vous avouer. Ce que j'entendais juste avant de l'intervention que votre intervenant était en train de dire, je n'ai jamais eu de jalousie vis-à-vis de mes frères et sœurs. J'en ai, pour moi c'était un fait, c'était comme ça, je n'y pouvais rien. Par contre, j'ai décuplé mon empathie vis-à-vis des autres. C'est-à-dire que je voulais me faire aimer de tous les autres. Que je rencontrais à l'école, je n'avais pas le droit de faire d'anniversaire à la maison, bien sûr, je n'avais pas le droit d'aller en colonie de vacances, je n'avais pas le droit de faire de fête, je n'avais pas le droit de sortir dans la rue. C'était un petit peu réfractaire, mais je suis devenue un personnage à 50 ans maintenant qui remplit de la joie dans le cœur des autres.
En tout cas, ça se sent dans votre voix, Martine. Ça se sent dans votre voix. Didier Pleu, envie de vous répondre.
Ce qui me ravit dans le témoignage de Martine, c'est qu'il n'y a pas de déterminisme. On peut être le vilain petit canard d'une famille et puis être tout à fait heureux après. C'est ce qu'on appelle la résilience. Et en plus, elle a fait une synthèse de vie qui va tout à fait dans le sens de construire. C'est-à-dire, j'ai peut-être été le vilain canard. Bah, puisque j'ai souffert du manque de compassion des autres, je vais devenir empathique. Vous voyez, là où un autre enfant dirait, j'ai été victime, il me faut 15 ans de divan pour m'en sortir.
Merci beaucoup, Martine, de nous avoir appelé de La Réunion. Alors, comment faire pour que les rivalités, les jalousies de l'enfance ne perdurent une fois devenue adulte, Roxane?
C'est compliqué parce que parfois elles sont entretenues encore par les parents. Ça veut dire que même des années après, il arrive que le système en fait familial continue à fonctionner exactement de la même manière. C'est-à-dire que les parents finalement continuent à avoir les mêmes postures et à générer les mêmes choses. Et donc il n'y a pas de progrès parfois dans
Et puis, je dirais aussi, on sait maintenant qu'on n'est pas obligé d'aimer des parents toxiques, on n'est pas obligé d'aimer un frère ou une sœur toxique. Ça arrive aussi. C'est pas naturel, l'amour fraternel, hein. Donc, si ça s'est pas construit parce que carence éducative ou autre, on n'est pas obligé d'accepter n'importe quoi ensuite. Et c'est pour ça qu'il y a des tas de frères et sœurs qui ne se fréquentent pas forcément à l'âge adulte.
Un mot de conclusion rapide sur notre thème du jour. La rivalité, la jalousie entre frères et sœurs est-elle inévitable?
Je crois que même si au départ on pense qu'elle est inévitable, moi je crois que si les parents actent bien une présence d'éducation, je crois qu'on peut en faire quelque chose de riche, c'est-à-dire vous êtes différents et vous allez apprendre cela et c'est le principe de réalité.
Roxane Fontaine.
Oui, moi j'ai dans le bouquin j'ai préparé des tests en fait pour que les parents essayent d'identifier ce qui fait que ils pourraient avoir des préférés et des chouchous et ce qui permettrait de déséquilibrer la relation familiale au départ et je pense que c'est important.
Merci Roxane Fontaine d'être venue. Fini la jalousie entre frères et sœurs est sorti chez Feur. C'est un ouvrage très pratique. Merci également Didier Pleu. Je signale la sortie de votre dernier ouvrage, Développer le self-control de son enfant chez Odile Jacob. À suivre la chronique de Julia Foyce. Il était une fois dans le web.
France Inter, grand bien vous fasse, Ali Rebi.
Descendu des hauts plateaux, vers des châteaux en Espagne et des promesses d'eau. Épuisés de poussière, piétinant le destin, quelques filles et leurs mères ont levé haut le poing, belles et solidaires. Sans jamais reculer. Dans ces moments-là, c'est la vie qui danse. Dans ces moments-là, c'est la vie qui va. Dans ces moments-là, c'est la vie qui donne. Dans ces moments-là, une envie de vivre. Ça se calme pendant l'hiver, ça recommence en été. Et toutes nos paroles en l'air sont bien vite oubliées. Rester là sans rien faire, c'est bon pour l'éternité. Cette vie j'en fais mon affaire, je ne pense qu'à l'aimer. On aime un amour sans jamais s'arrêter. Dans ces moments-là, c'est la vie qui danse. Dans ces moments-là, c'est la vie qui va. Dans ces moments-là, c'est la vie qui donne. Dans ces moments-là, une envie de vivre bien au-dessus de moi. C'est comme ça que le monde changera.
Le tout nouveau Véronique Sanson, ces moments-là.
Once upon a time.
Il faut garder le contrôle à tout prix.
Il était une fois dans le web.
Rebonjour Julia Foyce.
Et rebonjour Ali.
La Scheherazade de la vie numérique, tous les mercredis avec Il était une fois dans le web. Alors un bonheur sans nuage dans une fratrie, ça existe, c'est un paradis ou un enfer, ça reste à voir. Et vous êtes allé visiter sur les réseaux sociaux ce paradis ou cet enfer, Julia Foyce.
Oui, c'est l'histoire d'Anna ou l'histoire de Lucie. L'histoire d'Anna-Lucie, ça marche aussi, c'est le surnom qu'elles ont choisi pour afficher leur double vie, en double, oui. Sur les réseaux, c'est leur pseudo. Il est deux, mais il n'est qu'un, parce qu'elle poste à quatre mains qu'en vidéo, elle parle, c'est beau, d'une même voix, comme un duo, a cappella, à gauche Anna, à droite Lucie. Enfin, je crois, c'est ce qu'on m'a dit. Au singulier comme au pluriel, Anna Lucie, son sœur jumelle, elles viennent d'Australie, ou comme ici, on est, on meurt, mais tout va vite, pourvu que ça fuse comme un tweet, pourvu que ça spamme sur Instagram et que ça se look sur Facebook. Créature parfaite et parfaitement faite pour les fans d'Internet, Anna Lucie joue les starlettes, bouche lipue, robe fendue, avec surtout pas beaucoup de tissu. Juste de quoi afficher une printanière, rotondité fessière, la croupe chaloupe, elles en en sont fiers. Elles ont raison, c'est saisissant de voir leurs si noirs chevelons descendre tout chousse jusqu'au derrière. Le tout moulant les seins, c'est débordant, couleur flashy, c'est plus sexy. C'est jaune poussin ou rouge carmin, bleu électrique ou noir gothique. En un instant, ça doit faire tilt, ça doit flasher, ça doit briller. Alors on porte des paillettes de la pointe du doigt de pied jusqu'au haut de la pommette. Je dis là, il y en a des. Au pluriel, c'est singulier. On croit voir double, on hallucine et elles en rient, les petites coquines. Elles savent bien qu'ici, pour faire la différence, il faut qu'elles poussent plus loin la moindre ressemblance. En toute logique, alors, elles posent à l'identique comme un miroir magique. Et disons plutôt que sans lui, il n'y aurait pas d'histoire. Une histoire qui commença il y a quelques années de ça, au Japon, dans une télé-réalité. Moana comme Lucie, bien sûr, ensemble ont postulé. Le but du jeu, se présenter jumeaux, jumelles, devant un drôle de logiciel. Reconnaissance faciale, c'est annoncé, c'est pas banal, et de la tête jusqu'aux pieds, les candidats se font scanner. À l'arrivée, Anna Lucie gagne le trophée, et donc devant le monde entier, en un instant, elles sont sacrées, triomphantes, jumelles les plus ressemblantes de la planète. Les médias, les réseaux leur font la fête, leurs personnages alors penètrent. Avec nous, elles jouent et elles racontent tout. Elles savent qu'elles fascinent, alors elles disent mutines comme elles partagent tout, qu'elles pèsent leur assiette, doivent faire le même repas et qu'elles comptent leurs pas, mesurent leurs efforts pour que l'une comme l'autre fasse le même foie, le même poids, garde le même corps. Que ça a toujours été comme ça, que depuis l'école maternelle, pas une minute en temps réel, elles n'ont voulu se séparer et que c'est à l'université que le bistouri a commencé. Car pour finir, elles l'ont avoué, 150 000 euros dépensés pour se faire refaire le nez, se rajouter du sein et le sourcil, se l'épiler, cela pour plus se ressembler. Mais aujourd'hui, ça, c'est fini. Elles promettent de tout arrêter, marre de paraître superficielles, disent-elles, surtout revenir à l'essentiel, l'amour, le vrai, elles l'ont trouvé et par Facebook interposé. C'est lui qui est venu les aborder. Mais alors Ben, il ignorait à qui des deux il s'adressait. Alors les deux, il a aimé. Anna Lucie a sauté de joie car pour la toute première fois, en voilà un qui, enfin quoi, ne les éloignera pas. Aujourd'hui donc, ils s'aiment à trois. À les entendre, c'est le paradis. Ici, jamais de jalousie, mais si et seulement si. Chaque fois que Ben embrasse Lucie, il embrasse bien Anna aussi. Ça lui fait le double d'énergie, sourit maligne Anna Lucie devant son public ébahi. Mais sur Facebook, là, elle ajoute que leur homme reçoit en retour chaque jour une double ration d'amour. Et le futur, eux, ils le voient en rose, en blanc, mais ils y croient, cherchent un endroit où se marier. À trois, légalement, ils peuvent toujours chercher. Surtout, ils veulent un enfant, enfin, ils en veulent deux maintenant, tomber enceinte. Le même jour, elles s'y emploient, elles font tout pour et elles confient le rouge aux joues, qu'au-delà, leur rêve le plus fou serait de vraiment ne faire qu'un. À trois, à deux, à cinq. En revanche, ça, on ne sait plus bien.
Julia Foyce, tous les mercredis, il était une fois dans le web. On a reçu beaucoup de questions sur la rivalité chez les jumeaux. On y consacrera une émission entière. Demain, on s'intéresse à l'homophobie. Comment affronter l'homophobie en France en 2017? Nous recevrons Serge Effez et Olivier Mine. Vous pouvez poser vos questions sur Grand Bien Vous Fasse à radiofrance.com.